Alors, peut-être pour un droit de réponse aussi par rapport à ça.
Sur la question, j'ai l'impression qu'en fait le débat aussi c'est transposé, c'est tout à fait normal, sur la question de l'adaptabilité du CNU, de la procédure de qualification aux nouvelles méthodes pédagogiques, mais surtout à la nouvelle société. Alors, sans dire que toute la transformation de la société française repose uniquement sur vous et la qualification, bien évidemment, ce n'est pas le cas, mais par contre, c'est vrai que le levier de l'éducation est un levier important. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que la qualification, comme disait tout à l'heure M. Blanchard, les anciens chercheurs sont recrutés que sur de la recherche? Je voulais acquiescer, enfin, je veux dire non de la tête. Est-ce que.
Non, je sais pas. Oui, sûr, non. Mais non, moi, ce que je. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites par mes deux collègues. Donc, je vais essayer d'y répondre parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas la même interprétation. D'abord, je dirais qu'on est en situation, évidemment, de crise. Donc, ça, c'est une évidence. Donc, de tension, voilà, de tout azimut. Et que, du coup, c'est logique, on se pose des questions sur toutes nos institutions, et notamment parmi les plus faibles comme la nôtre, sont plus facilement remises en cause, puisqu'elles n'ont pas les moyens de résister. Donc ça, c'est, je tiens à expliquer qu'il y a quand même quelques données de type sociologique qui fait qu'il y a des rapports de force institutionnels, des rapports de force de conception des choses qui s'opposent, et nous sommes faibles, et nous sommes donc plus facilement en difficulté. Donc je préfère dire ça, parce qu'on a une tendance aujourd'hui, vous le savez bien, à un renforcement de l'administration, un renforcement de l'aspect gestionnaire. On veut tout contrôler. On pense qu'en mettant des systèmes, des modes de fonctionnement, des processus, en contrôlant, en évaluant, c'est à la mode. Ça fait partie de ce qu'on dirait la culture épistémique actuelle de nos décideurs et de nos dirigeants. Et donc, on pense que la solution est là. Et les conséquences de ça, c'est qu'on veut, presque... tout contrôler, et on veut imposer des modes de fonctionnement, alors que, à mon avis, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est au contraire laisser les acteurs s'auto-organiser, de réfléchir et décider. Ils sont les mieux placés pour faire des solutions et des propositions. Donc là, c'est un peu l'impression que j'ai, que ce soit le ministère, que ce soit nos responsables d'établissement ou d'autres, ou des spécialistes de la gestion, veulent tout gestionner, tout contrôler, tout évaluer et tout... vous avez compris l'esprit de ma réaction première. Parce que, évidemment, il y a des gros problèmes. Hein. Problème de l'employabilité, mais enfin, évidemment, la qualification une relation, c'est pas très, très, très lointaine avec l'employabilité, c'est... Ben on pourra en revenir là-dessus, mais parce qu'on ne qualifierait pas assez sur l'enseignement, ça aurait des conséquences sur l'employabilité, peut-être, je ne sais pas, mais on peut le relativiser. Bon, alors, je dirais que... Bon, j'aurais essayé de prendre comme ça quelques points que j'ai notés. Donc, il y a des grandes différences, un peu au hasard, hein. Il y a des grandes différences entre les disciplines, mais ça, c'est normal, c'est même le nécessaire, c'est même le centre des choses. Je vais prendre un exemple, mais vous n'avez pas décidé de changer ça. Enfin, par exemple, les sections scientifiques acceptent la plupart du temps des thèses relativement courtes constituées d'articles. C'est banal dans le monde de la science. Hein, de faire des articles dans des revues reconnues, c'est banal. Dans le monde de la science dite, on va l'appeler science de la nature. Mais dans les sciences humaines, c'est absolument pas comme ça. C'est des thèses de 300, 500, même 1000 pages, et c'est de l'habitude. Et ça correspond à une histoire, mais ça correspond à un besoin. Quand on veut construire une hypothèse en histoire, eh bien, il faut du temps, et ça, il faut l'écrire, le démontrer, il faut s'appuyer sur des sources. Voilà, enfin, vous connaissez ça certainement pour les historiens qui seraient ici. Donc c'est déjà vouloir normaliser, on voit bien qu'il y a des limites. Et si vous... Je reprendrai ce que disait mon collègue de gauche, c'est que la discipline, c'est construire un regard. Alors, on peut regretter que ce regard existe, mais la science n'existe pas autrement. Si on fait l'histoire de la science, c'est la construction de plus en plus fortement d'un regard. Entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, on voit bien comment ça fonctionne. Vous êtes formé dans le primaire, vous êtes formé dans le secondaire, et vous ne passez les différentes étapes pour progresser que si, à chaque fois, on vérifie que vous avez bien obtenu le regard et les gestes. Il y a le regard, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre tête, comment vous voyez les choses et comment vous résolvez ces choses. Et c'est ça qui est évalué à chaque étape. Ensuite, la licence, c'est pareil, etc., etc. Et au doctorat, évidemment, c'est encore plus pointu parce que vous êtes spécialisé, donc vous choisissez par exemple la biologie, ensuite donc les sciences de biologie, ensuite vous choisissez la biochimie ou la biologie cellulaire, enfin bref, vous vous spécialisez à chaque fois. Et à chaque fois, on vérifie bien que vous avez acquis la mentalité et les gestes. Bon, bref, vous avez compris le truc. Donc c'est fondamental. Sans discipline et sans ce regard pointu, il n'y a pas de science. Donc, alors évidemment, ça a un inconvénient. C'est que la personne, en effet, elle peut avoir des difficultés à changer de regard. Mais ça, on voit bien que la révolution scientifique existe quand même. Il y a quand même des modifications violentes et importantes dans l'histoire de toutes les disciplines. Donc ça veut dire que même ce regard-là n'empêche pas, même si parfois ce regard fait que c'est difficile de changer, mais c'est normal, parce que si c'était facile, on aurait tout. Hein, si vous voulez, quand je prends l'exemple de la mémoire de l'eau, quelqu'un trouve un résultat bizarre, eh bien, s'il n'y avait pas le regard très pointu qui dit « c'était inacceptable, on n'accepte pas ce résultat », on verrait les magiciens entreraient dans la science. Voilà. Mais c'est vrai. Donc, il faut avoir ça en tête. Hein, et donc, le regard... par contre, faire se rencontrer différentes personnes qui ont des regards différents, ça c'est évidemment très très utile, très très et nécessaire. Mais il faut, voilà, donc entre points encore, j'ai plusieurs choses. Alors la question de la dérogation, voilà encore un point pointu. La question de la dérogation pour plusieurs situations, notamment des étrangers. Eh bien, nous sommes contre. Alors on peut dire, puisqu'il y a les étrangers, il y a une dérogation pour les étrangers, donc dérogation pour tout le monde. Ben, nous on fait l'inverse, on considère qu'il faut que le CNU vérifie que les étrangers en question, comme les Français, comme ceux qui se présentent en France, parce qu'il y a plein d'Italiens, les Italiens sont extrêmement nombreux dans les qualifications, moi c'est d'ordre de 10% de candidats italiens, et d'Allemands, d'Américains, etc. Mais on a des gens qui viennent sans passer par la qualification. Et donc, ils peuvent ne pas être qualifiés. Bon, non, on considère que le CNU doit vérifier qu'il a les compétences et les critères de la discipline dans laquelle il veut entrer. Donc ça... alors ensuite, dans les EPST, on recrute des chercheurs sans passer par la qualification. Alors, ça, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'on demande la pédagogie. Hein. Parce que, justement, le CNU essaie d'évaluer. C'est pas... Alors évidemment, c'est pas simple, hein, mais... C'est pas ça, mais bon. Donc dans les EPST, il y a une espèce de commission qui reçoit les gens. Enfin, donc, bon. On pourra revenir là-dessus. La question, bon, voilà, je crois que j'ai rien à ajouter là-dessus, mais la question du doctorat qui serait remise en cause. Par le fait qu'il y ait la qualification qui serait demandée. Alors, il faut voir plusieurs choses. La première chose, justement, si je reviens à ce que je disais tout de suite, c'est que la qualification vérifie l'entrée dans le monde universitaire. Donc, elle essaie aussi d'évaluer la pédagogie par différents moyens, mais elle a un regard différent de la thèse. Ça, c'est le premier élément. C'est vraiment, est-ce que ce sera un bon enseignant ? Par exemple, quelqu'un qui peut être limite sur le champ de la discipline. On peut se dire, est-ce qu'il peut donner des cours, c'est une des questions qu'on peut se poser, hein, des cours qui appartiennent pleinement au champ. Donc, quelqu'un qui veut être, par exemple, sociologue, je prends totalement au hasard, on ne va pas choisir toujours la même section, et qui fait une thèse de maths, mais dans lequel il fait une étude sociologique des gens sur de mathématiciens. J'invente un peu là, mais bon. Eh bien, on se dit, oui, il n'est pas très loin d'être dans le champ. La partie de sa thèse qui tout concerne la sociologie peut être perçue comme dans le champ. Elle peut être même de qualité. On se dit, bon, d'accord. Mais là, l'élément pédagogique va entrer en ligne de compte. Mais est-ce qu'il est capable de donner un enseignement de sociologie? Bon, voilà, je dis, la conclusion pourra être non. Et donc l'élément pédagogie va entrer en ligne de compte. Je prends un exemple parce que c'est un truc classique que l'on a, c'est les gens, on fait intervenir la réflexion sur la pédagogie justement pour ces thèses un peu mélangées. Donc Oui, l'autre chose qui fait que c'est pas la chose qu'un doctorat, c'est que vous êtes qualifié dans une discipline précise. Et ça, quelqu'un qui veut, encore une fois, entrer dans une discipline se rend parfois pas tout à fait compte de ce que ça signifie. Alors, c'est pas obligatoirement de sa faute, c'est malheureusement souvent, et ça pose un problème extrêmement général à l'université française, certainement, là aussi il faudra y revenir, c'est que la personne croit être spécialisée, pouvoir être spécialisée dans telle ou telle section, parce qu'il a été mal encadré, parce qu'il a mal choisi son jury de thèse, parce qu'il a mal choisi son docteur de thèse, parce que son université ne l'a pas assez aidé, il se retrouve à s'être trompé. Moi, je vais prendre un exemple qu'on rencontre tous les ans. Bon, j'ai en tête une personne, il y a quelques années, qui avait travaillé sur la littérature médiévale, et qui, dans le cadre de sa thèse, avait travaillé sur le concept de mélancolie, qui est considéré par les historiens de la psychologie, la psychanalyse, etc. Là, je ne suis pas spécialiste, mais comme étant la déprime. Hein. La déprime, et donc on peut considérer que les textes qui discutent de la mélancolie au Moyen-Âge, c'est des textes scientifiques. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a une manière de le voir, de l'analyser, et il y a des textes plus ou moins scientifiques. Donc là, c'était de la pure littérature, mais la personne étudiait le concept de mélancolie dans cette littérature-là. Et elle était persuadée d'avoir fait un travail d'histoire des sciences. Elle avait un directeur de thèse qui était en littérature, elle avait un jury à 100% en littérature, et cette personne croyait pouvoir, et évidemment elle n'a pas été qualifiée parce que ça ne correspondait pas aux critères. Donc il y a aussi cet aspect qui est quand même assez important de vérification que c'est bien dans le champ, qui disparaîtrait si c'était totalement la main entre les universités. Bon, voilà, qu'est-ce que j'ai mis voilà, je vais encore. Il y a des sections qui qualifient beaucoup, qui se qualifient peu. Donc ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a on travaille là-dessus en ce moment. Hein, on travaille sur une homogénéisation en respectant les différences, encore une fois. Hein. Alors la question qui se pose par rapport à tout ça, c'est il y a deux philosophies. Hein. Il y a la philosophie quand un dossier correspond grosso modo, on doit le qualifier. Et puis il y a une autre philosophie qui est, nous sommes une première étape du recrutement. Et donc si on veut que le recrutement soit de qualité, il faut que l'on ait une part importante, que le CNU ait une part importante dans le processus. Et donc qualifions que vraiment on est très bon. Et là on est sûr que le jeu local sera réduit. C'est-à-dire qu'il y a un jeu local, c'est normal, enfin, c'est humain, hein. Et puis ça s'explique, il n'y a pas obligatoirement des mauvaises choses dans le jeu local, mais... il est réduit parce que malgré le jeu, ça sera une bonne personne sera recrutée. Vous voyez, il y a deux philosophies. Moi, j'aurais tendance à pencher plutôt sur la seconde, mais je suis minoritaire dans ma section. Voilà, qu'est-ce que je pourrais... Donc, vous voyez, je suis pour le renforcement du CNU. Et pareil pour les critères, je ne vais pas revenir, mais je l'ai dit tout à l'heure pour la thèse, mais on pourrait prendre plein d'exemples. C'est logique qu'il y ait des critères différents selon les sections. Voilà, la question de la pédagogie, moi je veux bien qu'on trouve une autre solution. On y réfléchit au CNU. Hein. On essaie de trouver les moyens de mieux juger, on essaie de le faire, mais nos difficultés, il n'y a aucun autre lieu qui ne les a pas. Je veux dire, le fait de déplacer le problème au niveau local, de supprimer le CNU, je ne vois pas en quoi ça permettrait de résoudre le problème de la difficulté de recruter quelqu'un sur ses qualités pédagogiques. Parce qu'il y a je pourrais prendre plein d'exemples qui montrent que le choix de telle chose n'est pas obligatoirement un bon choix. Par exemple, mais on le fait, hein, vérifier que si la personne a, c'est pas obligatoirement rédhibitoire, mais vérifier que le candidat a donné des cours. C'est un élément important. C'est-à-dire que généralement, quand un candidat a fait un certain nombre de cours, qui a fait au moins des cours, ça lui donne des points en plus, hein, sauf si sa thèse était mauvaise. Voilà. Mais c'est pas, encore une fois, sauf si l'ensemble du dossier était mauvais, ça, vraiment, c'est un élément important dans l'évaluation. Mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Moi, j'ai connu des athères qui étaient... pas du tout bon, hein, et qui ont été, mais quand il était dans mon université et qui faisait un mauvais enseignement, mais lors de la session, les gens de l'université de la personne évaluée n'ont pas le droit de parler. J'ai rien pu dire et cette personne a été qualifiée alors que franchement, donc il y a des difficultés, mais la solution, Elle n'est pas simple, hein. Mais on y réfléchit, on est en train de, aussi de défendre la possibilité d'une formation pédagogique. Hein, ça fait partie on a un groupe de travail là-dessus au CNU, ça fait partie des thèmes sur lesquels on travaille depuis plusieurs mois. Bon, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc ce que je veux dire, c'est que réfléchir à cette question du rôle du CNU, de la qualification, du processus de recrutement, ne peut se faire que dans, comme cela a été dit, que dans une réflexion générale sur l'université, mais plus que cela, hein, d'en parler du comportement des professeurs, des enseignants et des étudiants par rapport au fait, par exemple, qu'il y a le poids de l'histoire, le fait qu'il y ait des structures du genre amphi, ce genre. Mais ça, c'est plus large que notre question. C'est un comportement socioculturel qui me semble assez français. Les Français ne sont pas les seuls à être comme ça, mais c'est très français. Ça remonte, alors je ne sais pas quelle est l'origine, hein. J'ai pas fait, mais on voit, ça commence dès le primaire. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, le mode les liens entre professeurs, entre enseignants et étudiants et élèves en primaire, dans le secondaire, n'ont rien à voir. Mes enfants étaient aux États-Unis, à l'école publique américaine, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, je ne veux pas développer, mais on continue à travailler sur par forme de table ronde avec l'enseignant. Alors que c'est maternelle chez nous, mais ça continue jusqu'au collège, enfin jusqu'au...
Pourquoi j'ai posé des questions.
Jusqu'au collège, hein, et jusqu'à au high school. Donc, alors que chez nous, à partir du primaire, c'est terminé, on est comme ça. Hein. Bon. Et moi, je vois bien comment fonctionne là aussi, j'en profite pour vous dire, peut-être que vous l'avez fait, mais est-ce que vous réfléchissez sur les raisons des échecs des étudiants? Est-ce que vous vous interrogez aussi sur vous? Parce que la première chose à faire dans une communauté qui veut comprendre le monde et qui veut comprendre comment le changer, il faut qu'il réfléchisse d'abord sur lui avant d'aller chercher chez l'autre ce qui ne va pas ou ce qui va. Hein. Bon, je fais une parenthèse. Mais moi, je constate par exemple un comportement, enfin, je crois que tous les enseignants s'en rendent compte, quand je rentre dans un amphi comme ça, que je suis le premier arrivé, les étudiants rentrent, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un truc que je montre à mes étudiants parce que c'est quasiment une loi exacte, hein, extrêmement rigoureuse, c'est que les premiers étudiants se mettent derrière, ensuite deuxième, et ils approchent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Moi, j'ai donné quelques cours aux États-Unis. La première chose que les étudiants font, c'est de venir s'associer à côté de moi. C'est complètement inversé. Donc ça, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute. C'est pas la faute de l'enseignant. C'est une culture aussi. Donc je veux dire, voilà, réfléchir sur tout ça sans tenir compte de l'ensemble du système universitaire, de notre société et même du monde du travail, parce que voilà, c'est donc. Alors je sais pas.
Non, je pense qu'on peut passer du coup.
Non, mais je voudrais quand même finir.
Question suivante. En tout cas, c'était intéressant d'avoir. Enfin, c'était l'idée. Hein. D'être pas uniquement sur un débat
pour oui, contre la qualification. Oui, je finis sur une dernière chose, parce qu'après ça sera oublié. La question
de...
vous avez parlé assez longuement. Ah,
non, mais eux, ils ont peut-être envie de parler.
Ok, on est d'accord. Moi, je suis la personne qui empêche les étudiants de parler. Ne vous croyez pas, c'est pas le cas. Mais là, je voudrais finir quand même. Donc, je veux dire, la question... Parce qu'on fait plein de trucs comme ça, chacun y va, son explication, dans son analyse, alors qu'il n'est pas spécialiste. Hein. Il y a plein de gens qui parlent de la manière dont fonctionnent les phénomènes sociaux. Ils n'ont jamais fait d'études sociologiques. Donc moi je veux bien, hein, mais ça c'est aussi un manque de respect du monde universitaire. La question de l'origine des nouvelles disciplines et comment elles se construisent, c'est toujours en conflit de toute façon. Donc on ne trouvera pas de solution, c'est toujours en conflit avec la discipline plus ou moins d'où elle est originaire. Donc on ne trouvera pas de solution qui fait que d'un seul coup, on aurait un système qui ouvrirait la nouveauté sans problème. Voilà. Donc, je ne vais pas développer plus, mais je pourrais le faire.
Mais bon, je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de voir que la question n'est pas uniquement, et je pense que c'est là-dessus qu'on voulait aussi parvenir, pas uniquement pour ou contre la qualification, je pense que c'est trop restreint, mais en fait, vraiment réfléchir au processus long de recrutement des anciens chercheurs et des formations constituées. Alors, passons directement maintenant aux questions. Il est quoi, 11h30, bon, je pense qu'on peut aussi peut-être un peu dépasser, vu qu'on a dépassé un peu l'horaire. Je pense que voilà, pas de limite de temps pour vous expliquer donc, différentes fédérations qui appartiennent, qui sont d'ailleurs à la FAGE. Donc, une fédération à la fois territoriale, donc vraiment voilà, de villes, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Avignon, donc, qui ont un impact vraiment local sur leur territoire, leur région et sur la jeunesse de manière générale. Et puis des fédérations disciplinaires. Donc je pense que là-dessus il y aura des questions aussi parce que c'est clairement une question des disciplines qui a été posée tout à l'heure. Donc voilà, WNH, donc n'hésitez pas aussi à vous présenter le prénom mais surtout peut-être la discipline, en tout cas enfin, surtout la fédération à laquelle vous appartenez. Voilà. Allez-y. Okay.